qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Il ne suffit pas d'être un cinéphile et de voir beaucoup de films pour être critique. Il faut surtout une nécessité impérieuse et un talent pour faire circuler le désir, contaminer les autres, incarner un point de vue, une approche, si possible, unique du cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Et ce talent appartient aux revues de cinéma. Nous en avons invité 4 ce matin. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, la plus ancienne, créée en 1951, Les Cahiers du cinéma. Bonjour Marco Suzal.
Bonjour.
Le jaune du lettrage est devenu bleu comme l'espoir d'une renaissance après tant de secousses dans son histoire. Le numéro 1 du cinéma de genre s'est inscrit juste en dessous de son titre, Mad Movies. Bonjour Fausto Vasulo.
Bonjour.
Mad Movies, une approche spécialisée du genre fantastique. Raconter la société par le prisme du cinéma, c'est l'ambition de cette revue née en 2012. Bonjour Axel Cadieux.
Bonjour.
Ce magazine, c'est So Film. Enfin, la plus récente de ce club des quatre, la 7e obsession, pour redonner, dit-il, du souffle à la cinéphilie. Bonjour Thomas Haydan.
Bonjour.
En quelque sorte, tous concurrents, tous chasseurs d'un même trésor. Le cinéma pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que l'écran. Et pour conclure cette heure, les sorties de ce mercredi entre L'Enfant rêvé, Maternal, Yalda ou Un voyage interdit en Israël. C'est parti.
Si j'ai rué dans les brancards quand j'étais critique, c'était d'abord contre un certain cinéma qui était le cinéma français, qui était devenu très académique. Mais aussi, il y a une petite légende autour de ça, si vous voulez, une petite légende qui est née simplement de ce phénomène qu'on se souvient toujours de ce qui est contre, on ne se souvient pas de ce qui est pour. Alors on parle souvent de moi comme d'un critique extrêmement destructeur. En réalité, ce critique destructeur pouvait passer, à l'époque où j'écrivais dans Art, hebdomadaire. Eh bien, pendant un mois, chaque mercredi, je parlais de Lola Montes ou de Qu'on allait à mort s'échapper. Quand j'aimais un film, je ne le lâchais plus et j'avais un souci d'efficacité très grand. Malheureusement, c'est très difficile pour un critique d'être efficace parce que un simple article et même l'expérience prouve que même une unanimité d'articles favorables ne peut pas déplacer les gens s'ils ne veulent pas voir un film et par contre ne peut pas les détourner d'un autre film si on ne l'aime pas.
Ça, Truffaut, c'était avant. Désormais, les critiques, les commentaires, les avis, les images se sont multipliés à l'infini avec l'offre pléthorique d'Internet. Alors, une question à tous les quatre, face à cette offre, comment résister avec une revue payante, forcément décalée en timing et pour une génération qui lit de moins en moins? Fausto.
Vous devez 30 secondes.
Et ça tombe sur moi en premier.
Voilà.
Il en faut bien.
Comment résister en ce qui concerne Mad Movies, c'est vrai qu'on a une petite chance, c'est qu'on ait un titre hyper spécialisé et qu'on bénéficie en fait d'un effet de niche en réalité. Mmh. Alors, faut pas se leurrer, c'est un effet de niche qui s'érode aussi. C'est toujours compliqué de renouveler son lectorat, surtout quand on a une revue qui a 50 ans d'âge. Mais c'est vrai qu'on bénéficie justement de cette espèce de microcosme du genre et de cette capacité en fait à créer un sommaire, par exemple, même quand il y a pas d'actu, puisque nous, on travaille beaucoup le patrimoine. Ouais. Et du patrimoine, il y en a en ce moment en salle. Il y en a beaucoup aussi en vidéo. Donc, on a cette espèce de planche à laquelle on se raccroche. En ce qui concerne, en tout cas, la sommarisation des numéros et la défense d'un cinéma qu'on apprécie particulièrement.
Ça, c'était Mad Movies pour les cahiers du cinéma. Alors, comment réussir dans cette époque, je le disais, qui propose tellement de choses partout dans tous les coins?
Oui, c'est la phrase de Truffaut, vous savez, on a tous deux métiers, le sien est critique de cinéma, oui. Et c'est vrai que cette phrase s'est réalisée d'une certaine manière, parce que tout le monde écrit, c'est et puis il y a des gens qui écrivent, moi il y en a qui lisent d'une certaine manière, c'est un peu le paradoxe. Oui. Bah, résister peut-être en continuant à faire ce qu'ont toujours fait les cahiers, c'est-à-dire de mettre l'écriture en avant, d'écrire, de prendre le temps que peut se permettre un mensuel, du recul, de revenir sur les films, de... La phrase de Danet, je vais pas faire des citations tout le temps, que dans revue il y a revoir, et cette idée de peut-être être imposer un autre rythme dans cette période d'instantanéité constante. Quoi.
Pour revenir à lui, à Truffaut, qui disait que pour un critique, il fallait voir 2 fois ou 3 fois le film avant de vraiment le critiquer. Il serait débordé avec l'époque actuelle. Là.
C'est vrai, en tout cas, il faudra qu'il demande des liens, parfois.
Oui.
Mais certains disent même qu'il faut voir 7 fois un film pour bien comprendre.
Ouais.
Il y avait un universitaire, je crois, qui disait ça une fois.
D'où la 7e obsession.
Voilà.
Non.
Alors pourquoi créer une nouvelle revue de cinéma avec tout ce qui existe déjà de Thomas Hayden ? C'est quoi l'ambition de votre revue ?
Alors c'est vrai que par rapport à la 7e, ce qui était assez compliqué, c'est que avant 2015, donc quand on cherchait des fonds aussi pour faire financer la 7e obsession, on nous répétait souvent que bon, déjà évidemment les Cahiers du cinéma étaient là, toujours très enracinés dans le paysage de la cinéphilie contemporaine, et il y avait aussi SoFilm qui marche très bien et donc qui avait aussi trouvé sa place parmi les revues de cinéma, et donc souvent on nous répondait que finalement faire une nouvelle revue ça ne servait à rien, que c'était pas possible. Donc voilà, donc moi on me répétait il faut faire une revue annuel, un numéro par an, sur la peinture et le cinéma, en librairie, petit tirage. Et moi, je leur répétais, non, j'ai très envie de faire un magazine, une revue avec de la publicité, de l'actualité, quelque chose de ample, avec un tirage assez important. Et on me disait, mais c'est pas possible, ça ne marchera jamais, vous allez tenir 3 numéros, c'est impossible, la cinéphilie est morte, la presse papier est morte, les jeunes ne lisent pas, voilà, c'est mort. Donc, aux vérités, aujourd'hui, c'est vrai que, selon les études qu'on fait, la 7e est lue principalement par des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans en moyenne, donc c'est quand même assez génial, et on est sur des ventes qui sont en progression, donc c'est assez beau de voir quand même quelque part que cette soi-disant de prophétie, mais bon, en même temps, Serge Danet dit souvent que le cinéma était mort, donc c'est quelque chose qui existe souvent dans ce métier, de toujours prophétiser la mort, mais au contraire, on avait envie de prophétiser la vie, et la 7e obsession est née de la vie, de cette envie de vie, de créer de la vie, et non toujours d'être toujours dans cette idée de prophétiser la mort en permanence, qui devient assez lassant, surtout à l'époque où j'avais 20 ans et que je voulais lancer la 7e, et c'était vraiment assez glauque d'entendre tout ça. Donc c'est bien aussi parfois de prouver que les prophéties ont souvent tort.
Axel Cadieux pour SoFilm, je le disais, raconter la société par le prisme du cinéma, c'est ça l'idée de SoFilm.
Bah c'est un peu notre créneau et c'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis le début, depuis 2012, on essaye de se singulariser par ce biais, c'est-à-dire de prendre le pas de côté, de pas être dans l'actu. On a un cahier critique qui est minuscule. Mmh. Qu'on a pensé à supprimer plusieurs fois d'ailleurs.
On y reviendra à la critique.
Et donc en fait, on a vraiment tenté, ouais, depuis des années, de partir de films, de partir d'acteurs, de partir de réalisatrices, peu importe, pour raconter la société. Donc ça peut être un biais, ça peut être des biais très divers. Là, on est en train de travailler sur un film qui s'appelle La Nuit des Rois, qui se situe en Côte d'Ivoire, par exemple, dans une prison. Bon, bah, ça va être la manière pour nous de parler de la surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire, et donc de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on essaye un peu de remettre au goût du jour chez nous. C'est peut-être un truc qu'on a un peu perdu avec le temps, en allant à la facilité, en allant à la promo, d'interviews un peu, disons, banales. Qu'on essayait de rendre pas banales, mais qui sont forcément à un moment donné un peu banales.
Ouais, justement, vous avez l'impression de faire des interviews banales, tous. Ça veut dire, est-ce que on peut toujours en 2020 dire on fait une grosse interview avec tel metteur en scène, tel acteur, ou ça devient trop classique, Fausto Vasulo?
Bah encore une fois, nous on a une chance, c'est que parfois on fait des interviews de personnes qu'on peut pas lire ailleurs, parce qu'elles sont pas demandées en fait.
Oui.
Mais c'est ce qui m'étonne aussi, non, parce que c'est vrai que nous on est effectivement hyper spécialisés.
Mad Movies.
Voilà, et parfois je suis même assez étonné en fait de voir de très bons artisans, appelons-les comme ça, oui. Bah, ne pas être plus sollicités en fait par d'autres revues, puisque bon, en vérité, on a de spécialisés que le nom, on est tous très cinéphiles, même si c'est un terme un peu poussiéreux, à la rédaction, et on peut tout à fait regarder des films de Imamura comme des films de Romero en réalité. Ouais. sauf qu'effectivement, les gens qu'on rencontre et qu'on interroge sont des gens qui font des films de genre. Et très souvent, on a cette chance-là, les talents qu'on peut rencontrer sont des talents qui ne sont pas toujours très très sollicités.
D'ailleurs, je vous ai demandé à tous les quatre votre film fondateur. Je sais que c'est une question idiote pour des gens qui voient des milliers de films, mais il y a toujours eu un film qui a créé un déclic. Alors, on a monté un petit clip avec vous quatre. Il y aura une partie de campagne. La nuit du chasseur, Eyes Wide Shut et The Man Who Stole the Sun.
Ah, est-ce qu'on pourrait avoir une friture?
Ah oui, j'ai justement ce qu'il vous faut.
Ouh, quelle chance pour avoir de la friture!
Voilà, c'est la durée au fond de la rivière, quoi.
J'aurais préféré la pêcher moi-même.
Alors, vous allez nous faire une petite friture, un bon petit lapin sauté, de la salade et du dessert. Oui. Pousse-moi fort, Cendrillon.
Puis, de bâton, vous mettrez de l'huile de vin blanc, hein, et puis du bordeaux rouge.
Des papas! On déjeunera sur l'herbe.
Oh, on n'est pas à la campagne pour s'enfermer. Allez, hop là.
Attends. Leaning on their plastic
never sleep?
を作った男がいた。今世界で原子爆弾を持っている国は8つ。俺は9番目の男だから、俺の名は9番。
Donc, Fausto Fazulo, vous avez choisi une partie de campagne de Jean-Renoir. Non, mais c'est dans...
Ah, d'accord.
J'ai réfléchi un moment à choisir un film un peu inattendu, en fait, comme ça, histoire de déjouer justement un peu tous les clichés de « Ah bah tiens, il va nous choisir un film de George Romero, un film de Dario Argento. »
Voilà, mais un film japonais.
Un film japonais, ouais.
Et pour vous, Marco Zuzal, donc le français Jean-Renoir, « La nuit du chasseur » pour Thomas Hayden pour La septième obsession et « Eyes Wide Shut » de Stanley Kubrick. Mais c'est important, ces films fondateurs. Je veux dire, de là naît une envie, une cinéphilie et presque une impulsion pour une revue, non, Marco Zuzal?
Impulsion pour une revue, je sais pas.
Mais la cinéphilie, vous voulez appeler le patron quand même par les cahiers, hein. Donc, vous êtes dans cette filiation-là.
Oui, tout à fait. Dès mes premiers goûts cinéphiliques, il y a quelque chose qui m'amenait vers les cahiers et la lecture des cahiers très jeune, à 14 ans, a été entretenue par ça. Partie de campagne, bon, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Rien que d'entendre une minute, ça me met en joie. Donc, voilà, c'est...
Pareil pour vous, Axel Cadieux, d'entendre les notes de piano de Eyes Wide Shut.
Ouais, moi je vous avais laissé le choix entre Eyes Wide Shut et Predator.
Oui.
Et je crois que Predator, finalement, désolé, j'y reviens, est peut-être plus fondateur pour moi, avec le dernier des Mohicans ou des films comme ça que j'ai pu découvrir quand j'avais 9 ou 10 ans. J'adore Eyes Wide Shut parce que ça a été un traumatisme quand je l'ai découvert à peut-être 10 ans. Mais enfin voilà, c'est des films qui sont évidemment fondateurs et ce sont aussi des films qui, je trouve, te constituent ensuite plus tard en tant que personne. Enfin, c'est mon cas en tout cas pour diverses raisons.
Et pareil pour vous, Thomas Hayden, il vous a constitué.
Mais pour moi, La Nuit du Chasseur, ça a toujours été le mariage entre le bien et le mal. Et quand on est très très jeune, moi j'ai découvert le film vers l'âge de 5-6 ans, donc ça m'a vraiment marqué. Et à la fois, j'ai eu l'impression de comprendre à la fois l'esthétique du cinéma et en même temps l'esthétique même de la vie. Et donc au final, on se rend compte que autant la fiction que le réel, il y a un vrai mariage comme le bien et le mal. Et on est toujours un peu sur toujours le yin et le yang en permanence dans l'existence. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en tout cas en voyant le film très jeune. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une ambivalence dans l'existence. Et c'est grâce à ce film-là, en tout cas. Et donc, c'est fondateur autant pour le cinéma et ma cinéphilie que pour la vie en elle-même.
Alors, on va fuir les clichés, parce que quand on regarde vos 4 couvertures, il y a des trucs très intéressants. Il y a des dossiers chez les uns qui pourraient être chez les autres. Bon, les cahiers fait Frédéric Wiseman, certes, en couverture. Mais par exemple, il y a un chapitre très intéressant, c'est les photos de Sacha-Guitry très dans un portfolio. Ça aurait pu se retrouver dans son film, par exemple.
Peut-être, mais c'est nous qui les avons eus.
Oui.
Et blanc.
Non, je blague, bien
non,
sûr.
Même votre chapitre sur le psychopathe de Minsk, sur ce réalisateur, oui. Ça aurait pu être une trouvaille aussi de son film.
Oui, tout à fait. Oui, il y a pas de, les revues sont pas imperméables entre elles, mais ça t'y agiterait, par exemple, c'est vrai qu'on a aussi publié dans le numéro d'été des photogrammes d'un film inédit de Romer, dont des bouts ont été retrouvés dans les malles de Rivette.
Et là, c'est Ray qui prend en photo, c'est plus.
Oui,
c'est autre chose. Quand
même. On aime bien l'idée de publier des documents inédits, rares. Donc là, ça s'est fait par un membre du comité, Eva Markovitch, qui connaît le fils de Ray, et comme de cette façon-là, on a eu accès à ces photos.
Et notamment une photo de Kurosawa,
par hasard.
Magnifique.
Oui.
Et dans ce film, par exemple, la couverture est dédiée à Vincent Lindon, mais à l'intérieur, Jean-Pierre Léaud raconte la mort de François Truffaut. Mmh. On aurait pu trouver ça dans les cahiers, par
Complètement,
exemple.
Ouais. Complètement,
oui. Oui.
Je sais pas, oui, forcément, il y a à la fois une perméabilité qui est évidente et je pense logique, et en même temps, je pense qu'on essaye tous de publier la chose qui sera pas publiée ailleurs. donc de se démarquer d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut passer par. Il y a forcément des rubriques, des choses, des petits coups comme ça qui nous singularisent et d'autres qui nous font nous rejoindre. Mais moi, je sais que par exemple pour cette la nouvelle formule qu'on prépare, on a quand même l'intention et l'ambition, même si on n'y arrivera pas à chaque fois, de faire en sorte qu'on lise dans ce film des papiers qu'on lira pas ailleurs. Pour nous, en tout cas, c'est quand même une des ambitions.
Pareil. Alors pour Mad Movies, hein, y a un gros dossier Peninsula, le film coréen, mais il y a aussi il y a un truc très drôle, c'est à propos de Tenet, un bond dans le temps. Merci pour le jeu de mots.
On fait ce qu'on peut. Hein.
Ouais, non, c'est bien. Et une conversation imaginaire entre Nolan et Barbara Broccoli.
Ouais.
Ça aussi, on aurait pu le trouver dans ce film, par exemple, ce genre d'angle.
Bah décidément, on peut tout trouver dans ce film, en fait.
Ouais, non, c'est vrai que je compare beaucoup à ça. Non, mais il y a un dossier extrêmement nourri de films scandales, mais ça, c'est des dossiers.
Ouais. Avec des films qui ne sont pas toujours des films qui sont d'ailleurs associés au fantastique,
ouais,
en réalité.
Mais c'est un travail énorme. Combien de rédacteurs vous avez à Mad
Movies ? Pas beaucoup, en fait. C'est un peu le problème.
C'est-à-dire ? Combien ?
Le noyau dur, c'est au moins de 10 personnes, en fait. Oui. Je parle de noyau dur, là. Donc, c'est effectivement toujours très compliqué, même de renouveler les plumes. Hein. Alors, je suis très content de mes plumes. Hein. Je tiens à les rassurer. Si elles écoutent ce matin, il n'y a pas de problème.
Hein. Ouais.
Mais simplement, effectivement, c'est un peu difficile parfois d'injecter un petit peu de sang neuf et de trouver de nouveaux angles avec de nouveaux rédacteurs. Moi, je trouve que globalement, le niveau d'écriture chez les jeunes, en tout cas, puisque quand on dit injecter un petit peu de sang neuf, ça veut dire peut-être aller débaucher, on va dire, des plumes vierges.
Ouais.
Globalement, je trouve que le niveau est totalement affligeant. Enfin, je trouve que les gens n'ont jamais aussi mal écrit et aussi mal lu. Alors, pardon, j'ai un discours un peu plus décliniste que toi, Thomas.
Développer.
C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai cru, bêtement, en fait, que l'émergence des blogs allait donner envie aux gens d'écrire. Ça a d'ailleurs donné envie à certaines personnes d'écrire, en fait, et de se développer et de s'épanouir, justement, à travers l'écriture. D'autant qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de voir des films. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel gosse de 12 ans peut se faire une super cinéphilie en une année. Il n'a pas besoin de courir toutes les rétrospectives, il n'a pas besoin d'aller en Belgique ou je ne sais trop où pour aller voir des films qui sont tout à fait invisibles en France. Oui. Et sauf qu'en fait, en réalité, ce profil-là n'existe pas. Les blogs se sont effondrés. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu le règne de la vidéo et de YouTube. Les youtubeurs sont, pour moi, un vrai cancer culturel, c'est-à-dire que c'est à peu près ce qu'on peut trouver de pire en ce qui concerne la critique cinéma aujourd'hui. Et de fait, quand on cherche de nouvelles plumes, on les trouve où ? Les fanzines n'existent quasiment plus, les gens s'expriment sur Twitter en 500 signes, c'est quand même assez terrible. Enfin, pardon, hein, désolé pour cette piqûre un peu défaitiste.
C'est un petit peu la réalité, Thomas Hayden. D'ailleurs, dans votre septième obsession, La puissance féminine, à la fin, justement, il y a un chapitre qui s'appelle Pépinière, laisser la parole, justement, où l'écrit à des jeunes critiques.
Tout à fait. Donc ça, c'est un partenariat qu'on collabore beaucoup avec Sens Critique depuis quelques mois, autant sur la vidéo en digital que là, on arrive sur le print, justement, avec une collaboration sur comment on trouve aussi de nouveaux critiques pour demain. Donc on se rend compte que là, les deux textes qu'on a publiés, déjà, c'est deux femmes qui ont écrit, ces deux jeunes femmes, et les textes sont vraiment très très beaux. Après, pour revenir à ce que disait Fausto, je suis pas d'accord parce que nous, déjà, la rédaction de la 7e Obsession est massivement jeune, donc grosso modo les gens entre 20 et 32 ans à peu près, et là on a recruté par exemple Lucas Charrier et David Aizan, qui sont deux jeunes rédacteurs depuis quelques mois, et qui sont absolument extraordinaires. Dans le cas de David Aizan, il a fait les 20 pages de dossier sur le montage qu'on a publié en septembre, et c'est un travail de rigueur absolue. Donc voilà, évidemment, ça prend du temps de dénicher aussi de nouveaux talents et de découvrir aussi des gens qui sont sensibles au cinéma et qui sont capables d'écrire et d'écrire des textes longs aussi.
Certes, mais quand Fausto cite les youtubeurs, vous êtes à peu près d'accord, non, sur ce qui se passe en général
sur les youtubeurs, je peux pas répondre parce que j'en ai pas beaucoup écouté, donc je veux pas trop m'avancer.
Une
là-dessus.
Minute peut suffire parfois.
D'accord. Bon, ok. Bon, je rentre et j'écouterai alors.
Marco, Suzanne, vous en pensez quoi de ça alors, de cette parce que. Alors, les critiques sont développées hein, dans vos différents journaux. Vous, j'ai calculé 13 pages, 22 films analysés.
Oui, dans le cahier critique.
Oui.
Parce qu'en plus du cahier critique, il y a les pages DVD, livres,
oui,
VOD,
bien sûr, comme tous,
qui sont des pages où on essaie de faire la critique aussi, oui. D'une certaine manière.
Non, mais sur l'écriture actuelle, alors sur les avis, sur les films qui se multiplient.
Vous avez dit le mot, les avis, c'est-à-dire que souvent, oui. Sur YouTube, sur les blogs, il ne s'agit pas vraiment de faire de la critique, mais de donner son avis. Donc c'est pas toujours de l'écriture. C'est pas parce qu'on écrit, on formule des phrases qu'on écrit réellement. Après, je pense que finalement, il n'y a peut-être pas moins de gens qui savent écrire aujourd'hui, mais ça se voit plus.
On va écouter un critique célèbre, il s'appelle Serge Danet.
Moi, j'ai été très, très libéré. Très libéré personnellement le jour où je me suis rendu compte que ce que j'avais attendu du cinéma, ce que j'avais aimé dans le cinéma et ce que le cinéma m'avait donné, c'était l'invention du temps, à commencer par le mien. Inventer un temps à moi dans lequel je puisse vivre, mais qui est aussi le temps de quelqu'un d'autre. Et très peu l'image. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas très bon pour les images. Moi, par exemple, la chose que je vois le moins rapidement dans un film, c'est le chef-op. Il y a des gens qui me disent, oh là là, le rayon vert, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'il fait en 16 mm? Mais il est fou, il n'est pas professionnel. J'ai envie de le gifler. Je dis, tu rentres chez toi. Cinéma, c'est pas ça. Cinéma, c'est la durée. Si t'es pas sensible au fait que Romère invente des durées, que lui seul invente. Évidemment, il le fait aussi avec des images. Il a plutôt un bon imaginaire. Moi, j'ai rien à te dire. Bon, mais j'ai mis 30 ans à comprendre ça. Comme quoi, c'est les choses les plus simples dans sa vie qu'on met très longtemps à comprendre. Moi, les cinéastes qui sont des purs imagiers, disons, des purs imagistes, il y en a des formidables, hein, ils me tombent des yeux.
Moi, je tombe de ma chaise quand j'entends ça. Fausto Fazulo, qu'est-ce que vous en pensez? Un critique tel que Serge Danet, qui n'accorde pas d'importance aux images.
Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux images. C'est évidemment extrêmement subjectif. Oui. En tout cas, je pense que quand on traite le cinéma, on peut absolument pas faire abstraction de l'image et de l'immersion que provoque l'image. Après, on pourrait en parler pendant des heures. Hein.
Oui.
Je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'en fait, dans ses textes, il parle même parfois de mélange de temps. C'est quelque chose qui fait des différenciations entre plusieurs types de grands films. Et il dit qu'il est vraiment des chefs-d'œuvre. C'est là où, les grands films se donnent du temps et les chefs-d'œuvre mélangent les temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de temps. Donc c'est pour ça que l'extrait est très bien. Mais c'est vrai qu'il a écrit aussi, il a beaucoup théorisé sur le temps. Il va encore plus loin même dans la fin de sa carrière aussi pour expliciter. Mais sur la notion de temps, par exemple, ce qui est intéressant. Moi, je le vois pour la septième obsession, c'est que nous, on a une approche thématique hein, et donc on plonge souvent dans les arcanes du cinéma et des œuvres aussi. Là, par exemple, on avait fait l'année dernière un dossier sur l'espace au cinéma. On était parti d'Ad Astra de James Gray. Et finalement, ce qui était intéressant, c'était là aussi de se rendre compte que le cinéma, c'est avant tout du temps. Et même d'un point de vue, c'est-à-dire qu'un film de 1950 peut côtoyer aussi un film de 2020 et de voir comment les œuvres résonnent entre elles. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est en rapport avec le temps également. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en lumière.
Marco Cisal, vous regardez le travail du chef op quand vous voyez un film?
Non, mais surtout pour revenir à Danet, c'est que ce qu'il dit, c'est pas qu'il y a rien à voir dans un film. C'est que ce qu'il y a à voir, ce sont pas juste des images, pas juste des belles images. Donc ce sont des plans. Et donc dans un plan, il n'y a pas que du visible. Il y a de la durée, il y a de la profondeur, il y a de la... Donc ce qu'il dénonce, c'est peut-être un certain rapport au cinéma qui ne considérait le cinéma que comme de la belle image. Quoi. C'est ça qui le... Donc pour moi, les grands chefs-op, c'est ceux dont le travail se voit pas d'une certaine manière.
C'est Caroline Champetit qui fait une différence entre le visible et l'invisible, pour le coup. Hein. Et c'est la chef opératrice, notamment, d'Holly Motors, de Carax, mais elle a travaillé pour Godard aussi, également. Et c'est vrai qu'elle raconte ça, que souvent, dans l'image, il y a aussi beaucoup d'invisible, et qu'il y a des choses qui se voient pas forcément au premier abord. C'est le cas chez Apichapon, Murasita Kool, ou même chez David Lynch aussi, également. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Et par la sensorialité, par la tactilité de l'image, il y a des choses qu'on ressent aussi dans notre échine, mais qu'on voit pas forcément par le visuel. Danet a beaucoup théorisé là-dessus, d'ailleurs.
Pour en venir aux critiques et qui se réduisent parfois à des stickers sur des affiches, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ce film y consacre un article en racontant que ça remonte à longtemps. C'est-à-dire que la parole est totalement réduite à quatre mots, quoi.
Je crois que tout le monde n'a plus rien à faire de ces petites choses-là. Enfin, moi, je les lis même plus. Je pense que le public ne les lit plus. Pourtant, je suis né avec ça parce que j'ai grandi avec la génération Vidéo Club et je ne fonctionnais quasiment que comme ça. Enfin, entre autres. Mais bon, voilà, c'est une part très importante de la jaquette. Mais aujourd'hui, on s'en fiche, quoi. Enfin, je pense que tout le monde s'en fiche. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a plus aucune espèce de... C'est plus du tout mystique comme ça pouvait l'être à une époque, puisque maintenant, on est capable de citer, je sais pas moi, un réseau social, quoi. Ou un YouTuber qui... Enfin, voilà.
Un simple adjectif.
Fausto Fazulo.
Oui, moi j'ai vu une dérive assez dingue. C'était peut-être il y a 2 ans, où un distributeur avait mis des commentaires de... issu de Twitter avec des hashtags un peu partout pour voilà. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est la fin. Hein,
Et il y a une histoire très drôle qui remontait aux les Chinois à Paris de Jean-Yann. L'article du Monde disait un monument de bassesse morale élevé à coups de millions. Ils ont gardé qu'un monument sur la sur l'indépendance. C'est très important l'indépendance financière de vous tous. Quand on lit vos revues, il n'y a pas de pub pour des grands couturiers ou des belles voitures. Ce sont si chez vous, oui.
Chanel.
Ah d'accord, pour ne pas la citer. Merci d'avoir cité. L'indépendance financière, donc c'est très très important. Donc on va commencer par vous, Marco Suzal, par rapport au cahier. Donc ça a été racheté par un groupe de 20 personnes, des banquiers, des producteurs, mais personne est majoritaire.
Non, il n'y a pas d'actionnaire majoritaire. Ceux qui ont le plus de parts ont 12%.
Oui.
L'indépendance financière, je pense qu'aucun d'entre nous autour de cette table peut dire que sa revue est en complète indépendance financière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pub, qu'elle ne fait pas de partenariat, qu'elle ne bénéficie pas de subventions. Donc on a une revue, ça se fait pour faire une revue comme on les fait, c'est-à-dire on essaie de faire des belles revues, imprimées, et pas des fanzines, j'ai rien contre les fanzines. Mais les fanzines peuvent dire qu'ils sont vraiment totalement indépendants financièrement.
Ouais.
Mais une revue de cinéma ne l'est pas. L'important, c'est d'être indépendant éditorialement. Et donc de faire librement. Donc nous, au cahier, il n'y a pas un mot, pas un sujet, pas une place accordée à un film ou pas accordée à tel autre, qui est dictée par les propriétaires de la revue.
Et pour ce film, par exemple ?
C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement indépendant, évidemment. On a des soutiens externes, rien que par la pub qui est présente dans le magazine. En revanche, moi, en 8 ans d'écriture, on m'a jamais rien dicté. Et je sais qu'au niveau des rédacteurs en chef, on leur a jamais imposé quoi que ce soit non plus. Donc pour moi, c'est le seul point essentiel. Le reste, malheureusement, oui, étant donné l'état actuel, on est contraint de prendre des finances externes. Mais c'est pas l'essentiel pour moi.
Et pourtant, vous, pour votre nouvelle formule, vous lancez une souscription.
Oui, parce que c'est une manière de marquer le coup aussi, et parce que c'est nécessaire, et parce que les temps sont durs. Moi, je suis pas fan des Kiss Kiss Bank Bank de manière générale. En l'occurrence, c'est pas mon idée, mais bon, voilà, c'est nécessaire. Mais c'est surtout une manière symbolique de dire, en fait, on passe à autre chose nous aussi. Et peut-être de ressouder aussi des lecteurs et de dire qu'on existe et qu'on a envie d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Fausto tout à l'heure, sur la jeunesse et tout ça, moi je suis d'accord, on a aussi un noyau de moins de 10 personnes. Par contre, on a fait le pari, peut-être gagnant, peut-être perdant, je sais pas encore, d'ouvrir nos portes cette semaine en fait, et d'accueillir 30 personnes en 2 réunions, 2 fois 15, pour essayer de voir s'il y avait pas des gens aujourd'hui, jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, mais qui avaient des idées et qui pouvaient nous permettre de renouveler, sans profil prédéfini. Sans background, sans école de journalisme, ou avec le journalisme, peu importe. En tout cas, des gens qui auraient d'autres idées, tout en comprenant là où on voulait aller.
Fausto Fazulo, qui finance Mad Movies ?
On a un tout petit éditeur en fait qui a 2 titres, Mad Movies et un autre titre qui s'appelle Atom sur le manga. Donc, on peut pas vraiment parler d'un groupe ou de je ne sais trop quoi. Alors, contrairement à mes collègues, nous, on n'a pas de subvention. On n'est pas subventionné, malheureusement.
Ben oui. Vous avez fait plusieurs fois la demande
Non, on n'a pas fait de demande. J'ai appris l'existence de cette subvention complètement par accident, en réalité. Donc, nous nous sommes mis sur les rangs, mais voilà. Donc, et quand j'ai vu certains titres qui touchaient cette subvention-là, alors, ils ne sont pas autour de cette table aujourd'hui, rassurez-vous. Mais c'est quand même un petit peu posé la question de la mission, on va dire, culturelle et cinéphile de certains bénéficiaires de cette bourse, appelons-la comme ça.
C'est le CNC ?
C'est le CNC, ouais.
Ouais. Et vous dites non, Marco Suzal ?
À ma connaissance, on ne l'a pas non plus, encore, le CNC.
Si vous l'aviez en 2019. parce que la liste faisait partie avec du cinéma positif, sous film.
Oui, peut-être.
Puis, je ne sais plus après qui y avait, mais on faisait partie en 2020. Je ne sais pas si après, là, il y a une nouvelle session en 2020, donc il y aura une autre décision, je ne sais pas. Mais...
Et avec la crise, ça n'arrange rien en plus.
Avec la crise, ça n'arrange rien. Effectivement, comme Axel, moi, je suis pas du tout fan du financement participatif. C'était même un truc qui m'horripilait au plus haut point il y a quelques années. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un bon canal de promotion, surtout pour des titres spécialisés comme nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de nous payer des dos de kiosque ou ce genre de choses-là. On peut pas vraiment faire de publicité. Alors, On a une communauté, on a effectivement des fans qui sont très très attachés à la revue, mais si on souhaite un peu promotionner de nouvelles parutions ou ce genre de choses-là, c'est vrai que le canal KissKissBankBank aujourd'hui, je dis KissKissBankBank mais ça peut être Ulule ou n'importe quelle autre plateforme de financement participatif, peut être intéressant pour la promotion, en fait, tout bêtement. On quémande absolument rien, on fait juste de la souscription, de la prévente. C'est un peu comme des offres d'abonnement qu'avant on découpait en fait et qu'on envoyait ensuite à la rédaction. Sauf que là, ça se fait aujourd'hui en ligne.
Vous avez un groupe qui vous soutient quand même, Axel Cadieux, à SoFilm, avec SoFood Society.
Ouais, c'est la dimension hybride de SoFilm, ouais. Mais oui, bien sûr, oui. Donc on n'est pas sans filet.
Est-ce que le succès du récit de l'affaire du pont de Ligonnès cet été, non mais dans Society, vous a tous encouragé à développer des sujets?
En tout cas, je pense que pas que ce soit propre à SoFilm, je pense que c'est propre à plein d'autres revues. Moi, j'ai toujours cru, d'ailleurs, je suis pas spécialement surpris par ce succès, parce que j'ai toujours cru qu'à partir du moment où il y avait de la qualité dans l'écriture, et à partir du moment où il y avait un sujet prometteur, les gens étaient capables de lire 70 000 signes. J'ai toujours pensé que c'était possible.
C'est énorme.
Et aujourd'hui, je m'interdis pas du tout, avec l'autre rédacteur en chef, Raphaël, de faire un numéro spécial, par exemple. Pourquoi pas faire un numéro spécial Mulholland Drive en 2021 pour les 20 ans, par exemple.
Vous vous rendez compte un peu de l'impact de vos différentes enquêtes? Vous avez des retours un petit peu des lecteurs?
Parfois, bien sûr, oui. Mais c'est difficile parce que quand on écrit, on s'aperçoit qu'on n'a pas tant de retours que ça. Mais oui, on a des retours. L'impact qui est difficile à évaluer pour les revues, mais
sur les réseaux sociaux quand même, je trouve aujourd'hui.
Oui, il y a des réactions.
Il y a vachement de réactions.
Puis vous avez tous.
C'est pas les meilleures réactions sur les réseaux sociaux. Hein, c'est pas
les
plus représentatives.
Non, je suis d'accord, mais en même temps, par exemple, que ce soit sur Instagram ou même sur Facebook, Twitter, il y a même des messages qui peuvent parfois être argumentés. C'est intéressant, ça donne aussi un peu la couleur.
En tout cas, bravo à tous les quatre. Vous avez tous, en plus de votre revue, vous avez des sites, vous avez des hors-séries, vous avez des bouquins.
Des animaux parfois.
Des animaux aussi parfois.
Bon, on les vend pas.
Non, mais bravo, vous êtes vraiment des résistants dans ce monde cruel.
On dit à nos auditeurs, abonnez-vous.
Ouais,
abonnez-vous à Survue. Abonnez-vous aussi, on va les citer quand même, Positif, ça existe, Revue et Corrigée, Réplique, bon, voilà, il y a un beau et d'autres, beaucoup d'autres encore. Il y a un beau panel dans un beau paysage de revues de cinéma.
Si je peux me permettre, juste parce que par rapport à la question d'indépendance, je la trouve importante et c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est un peu le truc qu'il va falloir sur lequel faut tous travailler. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de la 7e obsession, ma sœur et moi, Cécile Aïdan, et où on est majoritairement actionnaires, donc ce qui fait qu'on est entièrement propriétaires. Mais c'est vrai que c'est important, voilà.
Et vous faites pas de publicité, de partenariat?
On fait des partenariats, mais en général, on en vend, mais c'est toujours si on a vu le film et si on a aimé le film. Donc ce qui fait qu'on nous achète jamais une page de publicité avec partenariat. Et on nous force à écrire un article, ça s'est jamais arrivé.
Vous restez tous les quatre avec nous, Mad Movie, 7e obsession, Cahier du cinéma, SoFilm, je vous cite par vos revues. Et on se retrouve avec après James Blake pour les sorties.
C'est en racontant par exemple un scénario en 10 lignes qu'on s'aperçoit tout d'un coup de toutes ses faiblesses ou même de sa force. Et c'est une bonne gymnastique, je trouve, faut pas en faire trop longtemps. Évidemment, je pense que mes articles pouvaient paraître assez négatifs dans la mesure où j'étais plus excité par les articles, par l'écriture d'articles défavorables que par les éloges. Je crois que je savais mieux attaquer que défendre, d'ailleurs. Je le regrette. There's no 5 years, there's no 10 years, only this, queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension, only this lucid dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first for her. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Well, maybe I should study my reflection. Best to know how I see. I spend the day.
just to feel how you feel. You feel far the walls crossing up. Late nights I can see the lust in her. As it rains, the first color. Skies open up, shut up. Cracking seals, guilty of a pill. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real?
On va commencer les sorties de la semaine, Laurent, avec Maternal, un premier long-métrage de l'italienne Maura Del Perro. Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires, où elle doit terminer sa formation de sœur au sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans, à une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix. Donc confrontée effectivement à la maternité précoce des filles, avec la maternité absente des sœurs, beau sujet, enquêté par sa jeune réalisatrice, on n'en doute pas, et véracité à tous les étages. Alors, question, pourquoi ce récit bien mené, bien interprété, semble si lisse, si bien réglé, même dans ses accidents, tous attendus jusqu'à cette fin inéluctable?
Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Je n'ai pas de réponse parce que je suis dans le même état de trouble, voilà, par rapport effectivement à cette situation donnée, dont il faut quand même dire qu'elle n'est pas si exotique que ça. J'ai lu certains de mes confrères qui pensent que c'est un exotisme fou lié à l'Argentine que de faire en sorte que des mères célibataires, comme on appelle, soient en quelque sorte vivent sous le toit de religieuses. Ça existe en France aussi. Enfin, il y a pas d'exotisme formidable à cette situation. Mais effectivement, à force, on sent bien la volonté de ne pas faire dans le pathos, de pas faire dans le mélo, mais à force de retenue, il semble vraiment que la réalisatrice italienne en soit parvenue à un os complètement dégagé et qui ne laisse passer aucune émotion réelle.
Marco Cisal, vous êtes de cet avis-là, vous avez vu le film?
Oui, j'ai vu le film et je suis tout à fait d'accord. En plus, j'ai vu, ça va paraître un peu snob, mais j'ai vu au festival de Mar del Plata dans un programme de films argentins.
Ouais.
Il y a tellement de choses excitantes dans le cinéma argentin aujourd'hui que ce film avait paru très, effectivement, assez lisse et plat, alors qu'il y a un potentiellement, par son sujet et ses actrices, ça pourrait être un film beaucoup plus brûlant et troublant, et c'est assez sage, quoi.
Ouais. Israël, le voyage interdit, partie 1, Kippour, de Jean-Pierre Liedo. Il se dit ça, une famille oubliée, les Juifs d'Algérie, eux aussi perdus de vue, n'avoir rien transmis à mes enfants, m'être compu dans l'ignorance. Arriverai-je à me débarrasser de toutes mes fautes, car d'Israël, je dus vite admettre, je ne savais rien, ni de son passé, ni de son présent.
Oui, alors c'est la première partie qui s'appelle Kippour, d'un documentaire en 4 parties au total, ça fait 11 heures de films qui vont sortir progressivement dans les 3 autres semaines à venir. Alors oui, c'est intéressant cette position à la fois de documentariste mais aussi simplement de citoyen, d'homme avec un père marxiste algérien et athée et une mère juive plus respectueuse de la tradition religieuse. En fait, ce film est intéressant au moins dans cette première partie sur le fait qu'il met sur la table que c'est bien la recherche d'une identité absolument, une identité juive absolument étouffée, repoussée, voire dénuée, qui interroge donc l'essence même de la religion, l'essence aussi citoyenne, avec beaucoup d'interrogations sur le sionisme, lui aussi délibérément écarté et même attaqué par le cinéaste dans sa jeunesse. Donc cette démarche très très personnelle, très intime, peut paraître parfois agaçante, voilà, parce qu'elle manie un certain nombre de problèmes très 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 présents, mais je trouve qu'il y a une sorte de sincérité permanente qui affleure sans cesse, qui est tout à fait touchante.
Chien pourri, la vie à Paris, c'est un film d'animation de David Durand, Vincent Battard et Stéphane Aubier. Bien connu, 5 aventures de 12 minutes chacune.
Ben oui, le chien pourri, c'est le chien qui pue et qui fait les poubelles. Donc d'accord, ça nous ravit tous, évidemment. C'est 5 histoires courtes de chien pourri. C'est un programme d'une heure avec les puces de chien pourri en Amérique, chien pourri à la mer, on dirait des bécassines. C'est drôle, c'est iconoclaste, c'est surréaliste. Il faut vraiment y aller en famille. Ce qui est intéressant dans le contexte actuel pour les films d'animation, ben c'est que comme on est obligé obligé d'y aller en famille, ben on prend beaucoup, on achète beaucoup plus de places qu'une seule place de cinéma. Voilà, donc aller en grande famille, nombreuse, voir Chien pourri. Il faut, on le dit à cette occasion, aller au cinéma, s'il vous plaît. Remplissez les salles, elles en ont bigrement besoin.
Mais oui, puis c'est très sécure le cinéma, en plus beaucoup plus que les restaurants ou même la rue. Tout le monde est masqué, on est tous espacés. C'est très facile de, on peut parler au micro avec un masque, donc on peut regarder un film, voilà, avec un masque.
C'est ce que font tous les gens dans un train, par exemple.
Par exemple.
Regarder un film avec un masque.
Voilà. L'enfant rêvé, Raphaël Jacoulot. Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois, celui des arbres, des forêts du Jura, qu'il connaît mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme, tous deux rêvent d'avoir un enfant. Sans y parvenir, c'est alors qu'il rencontre Patricia, qui vient de s'installer dans la région, commence une liaison passionnelle. Très vite, elle tombe enceinte. Le désir d'enfant côté masculin, l'obsession même, sujet assez rarement traité au cinéma, donc a priori intriguant, mise en place du sujet, description du lieu, des enjeux plutôt réussis jusqu'à cette issue fatale, la maîtresse enceinte et le choix pour François. Ce personnage tourmenté mettra quand même 20 minutes de film, c'est long, à tergiverser, l'annoncer ou pas à sa femme, jusqu'à transformer cette intrigue existentielle en thriller classique. Un dernier acte tellement décevant comparé à la feuille de route, Laurent.
Oui, moi la déception, elle vient globalement par rapport à la filmographie de Raphaël Jacoulot, parce qu'il dans ses trois films précédents, notamment avec Barrage et Avant l'aube, il me semble qu'il avait montré des qualités plus assurées, et notamment en termes de narration. C'est quand même un scénario écrit par quatre auteurs, quatre personnes, et c'est au moins effectivement dans une première partie, ça multiplie les invraisemblances. C'est un scénario qui peine totalement à convaincre son spectateur, alors qu'il est en train de raconter ce qui devrait être une mécanique implacable.
Oui.
C'est quand même un paradoxe absolu. Dans ce contexte-là, ben, les personnages du coup sont assez mal dessinés, il faut bien l'avouer. Reste un style certain que Raphaël Jacoulot soit un cinéaste, personne ne peut en douter. C'est malheureusement pas avec ce film-là qu'il le prouve le mieux.
C'est avec Jalil Lesper, Louise Bourgoin et Mélanie Doutet. Les guerriers de l'Himalaya, c'est un documentaire de Jerzy Porebski. Dans la Pologne communiste des années 80, un groupe d'alpinistes défie l'hiver himalayen et enchaîne les exploits en réussissant les premières ascensions de la plupart des sommets de plus de 8000 mètres dans des conditions inimaginable de météo.
Mais oui, ah bon, alors les films de montagne, on adore. Enfin, moi, j'adore les films de montagne, je trouve ça toujours merveilleux. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un pas de côté quand même, parce que il n'y a pas de tempête de neige, il n'y a pas de grande montagne visible, il n'y a pas de scène d'escalade avec un suspense fou. Il y a juste des anciens alpinistes himalayens polonais sous le régime communiste, et croyez-moi, c'est manifestement pas simple de prendre piolet et de monter des sommets quand on est effectivement dépendant des régimes communistes. C'est ce que raconte le film, c'est donc à la fois très drôle. Par exemple, ils en sont réduits à se partager une médaille en plusieurs petits bouts parce qu'il n'y a pas assez de médailles pour chacun d'entre eux. Et puis par ailleurs, il y a le récit très émouvant d'un frère qui va à 8000 mètres pour parce que son frère est mort en haut sur ce sommet. Donc il y a des scènes à la fois très émouvantes et puis très drôles, très drôlatiques sur cette improbable rencontre entre les grands sommets et l'Himalaya communiste.
Et puis encore deux docs, notamment We Are Soldiers de Svetlana Smimova. Ces trois volontaires ukrainiens blessés lors de la guerre avec les Russes et les séparatistes sont soignés à l'hôpital militaire de Kiev représentant trois générations, trois milieux sociaux, trois régions différentes. Ils se rétablissent, s'ennuient, espèrent et préparent l'avenir.
Et tout ça, Christine, en une heure. Ce qui prouve bien parfois quand même qu'on peut faire des choses tout à fait passionnantes et intéressantes en peu de temps. Tout ça tient en une heure et le pari est tenu de nous raconter ces trois vies-là, ces trois vies fracassées dans la guerre civile contre les séparatistes alliés aux Russes. C'est de ce point de vue-là vraiment tout à fait réussi par une réalisatrice qui est à la fois actrice et kiné volontaire, ce qui la rend très proche de son sujet.
Et enfin, en attendant, Le Carnaval, également documentaire de Marcello Gomez, dans la région reculée du nord-est du Brésil. Le petit village de Toritama est un microcosme de capitalisme impitoyable.
Et oui, ils font les 20 millions de jeans par an, 20 millions de jeans, de pantalons par an, voilà, dans ce paradis du néolibéralisme, vous le disiez. Et ils ont une sorte d'Éden, de paradis, une fois par an, le carnaval, pour lequel, là, pour le coup, ils sacrifient tout. Mais auparavant, ce sont des esclaves absolument modernes.
Avant le cadeau juste, bien sûr, signalé Yalda, la nuit du pardon, on a consacré toute l'émission la semaine dernière.
On a bien aimé.
Et que le prix Jean Vigo 2020 2020, décerné hier soir, vous faisiez partie du jury, Marco Suzal, a été décerné à Énorme de Sophie Le Tourneur.
Et avec un prix spécial pour les frères Larieux, également. Voilà.
On passe au cadeau, Laurent.
On passe au cadeau. Pour vous, alors on essaye de trouver des choses que vous n'avez pas reçues en service de presse. ne dites rien si c'est le cas, s'il vous plaît. Et on les recommande de toute façon à nos auditeurs très chaudement.
Ouais.
Thomas, pour Thomas Haydan, eh bien, ce seront les fleurs de Shanghai, de HHH, comme on dit, c'est-à-dire Houssia Houssienne, le réalisateur taïwanais qui fait un somptueux portrait des bordels de la fin du 19e siècle à Shanghai. Et il y a un très très beau portrait du cinéaste par Olivier Assayas, s'il vous plaît. C'est chez Carlotta, je ne sais pas si je l'ai dit.
Merci.
Pour vous, Axel Cadieu, vous êtes dans un groupe où le sport a toute sa place. Eh bien, aujourd'hui, ça sera non pas sous foot, mais sous rugby pour vous. Avec le très beau documentaire de Delphine Glaise, beau joueur, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un formidable portrait d'une équipe qui est un tout petit peu gagnante et extrêmement perdante. Et c'est avec des personnalités, notamment l'entraîneur, qui ferait un film de fiction merveilleux. C'est chez Condor, et je le répète, c'est beau joueur de Delphine Glaise. À recommander chaudement également.
Merci beaucoup.
Pour vous, Fausto Fazzullo, et bien sûr Pasolini.
Ah,
Pasolini dans son versant peut-être le plus titillant, c'est-à-dire la trilogie de la vie, le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une Nuits. C'est chez Carlotta, c'est un joli petit coffret de Blu-ray. C'est la première fois que ces trois films-là paraissent en Blu-ray. Ce sont trois récits évidemment éminemment fondateurs, on les connaît, et Pasolini les traite bien évidemment à sa manière. Dernier coffret pour vous, Marco Suzal, Alain Cavalier, je pense que c'est un cinéaste qui n'est pas inconnu des Cahiers du cinéma, bien entendu, et c'est un merveilleux petit coffret de deux DVD chez Tamasa pour retrouver 24 portraits au féminin de l'illusionniste, de la fileuse, de la fleuriste, etc. Et ce conseil absolument merveilleux d'Alain Cavalier, à consommer avec modération, dit-il, il faut voir trois films par trois films, mais pas plus. Donc suivez son conseil, Marco Suzal.
Merci beaucoup.
Merci Thomas Haydan pour la 7e obsession, Axel Cadieu pour ce film, Fausto Fazzullo pour Mad Movies, et Marco Suzal pour les Cahiers du cinéma. S'il vous plaît, allez au cinéma et lisez le cinéma.
Oui.
On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Thomas Haydan, j'y étais.
Et moi, Axel Cadieux, j'y étais.
Et moi, Marco Suzal, j'y étais.
Et moi, Fausto Fazzullo, j'y étais.